RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, la star de l'équipe de France, le maître Yodu, le chef d'RMC Running. Salut chef.
Ouais, le chef de la course à pied, ça s'arrête là mon degré de chef. Après, je vais pas plus haut moi.
Sinon c'est les plats surgelés au micro-ondes ou au four quoi. Ça suffit.
Non, ça quand même non. Non jamais. Même. Jamais. J'ai pas basculé encore, tu vois, boîte de conserve. Plats surgelés et tout.
J'espère bien. Quand on vit dans une si belle région avec des produits frais, j'espère qu'on se fait plaisir quand même.
Et puis surtout, on me cuisine.
Ah bah, c'est ça. Ça, c'est de l'intelligence. Bravo, Johan. Là, je te reconnais bien. Bon, rappel, si vous aimez RMC Running, vous le faites savoir en notant le podcast sur les plateformes de téléchargement, Spotify, Apple, Deezer. Vous laissez aussi des commentaires. Vous nous rejoignez, le club RMC Running sur Strava, vous nous rejoignez sur Instagram. Et vous pensez bien à postuler pour le record du monde. Là, c'est la dernière ligne droite, vraiment. On va faire la sélection d'ici moins d'un mois. Une grande personnalité à l'honneur dans RMC Running cette semaine. Un chef, Juan Arbeláez, chef colombien, chroniqueur, animateur télé. Passionné de sport aussi, notamment de course à pied, il va nous raconter son histoire, vous donner des conseils parce que c'est lui qui va gérer la séance d'entraînement. Comment manger sainement, Johan, sans se priver? Bon, toi, tu te prives jamais. Hein,
non, et je mange sainement. Voilà. Tu vois, je fais partie de... Voilà.
Toi, t'es dans la cible, donc c'est
dans
bon.
Dans la cible, ouais.
On pourra en parler. Puis on aura un beau plan matos qui va aussi vous intéresser. Ça concerne tout le monde. On va vous parler des nouvelles chaussettes Pro Marathon V2 de la marque Compress Sport. Guillaume Vautier, le directeur marketing de Compress Sport, sera en direct avec nous. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, surtout sortez les couteaux et les fourchettes. Entretien avec un personnage entier.
Les eaux turquoises de la mer des Caraïbes, des forêts tropicales, des plaines arides, des vallées, des paysages de rêve auxquels on ne s'attend pas quand on pense à la Colombie.
Le chef Juan Arbeláez. Préparez vos papilles, on vous en met plein les mirettes et plein l'assiette.
Et je vous amène courir. Je me souviens, ma première course à pied, c'était Paris-Versailles. Je suis parti comme un bleu. Kilomètre 10, je suis complètement éteint.
La nourriture colombienne, c'est une nourriture très paysanne, mais réconfortante.
On va se remettre un petit coup de jambon, je crois.
On a le soleil, on a la neige, il y a une flore et une faune exceptionnelles.
Je pense que ça va. Les jambes, elles tiennent pour l'instant. Le mental est bien. C'est magnifique, franchement.
Les gens n'aiment pas trop, mais moi, je suis un grand fan. C'est les fourmis à grosses fesses.
Campeón Colombia.
Je pense que le dépassement de soi, c'est pas juste physique. Mentalement, tu relativises beaucoup.
Et viva le jamón ibérico!
Ah, il est là en direct avec nous. Ça sent bon la Colombie, le soleil, les couleurs. Juan Arbeláez, chef colombien, runner, chroniqueur et chef d'entreprise aussi. Salut Juan!
Salut, ça va?
Et toi alors, comment ça va? On est ravis de t'accueillir, vraiment.
Ah bah écoute, merci, je suis très très fier, je suis très heureux d'être là avec vous. Et surtout, quelle entrée, c'est incroyable. J'ai eu l'impression de voir ma vie défiler en l'espace d'une minute, c'était magnifique.
Alors là, tu remercieras notre producteur Geoffrey Charpie, très inspiré, amoureux de la Colombie lui aussi. Donc forcément, ça lui a parlé, ce thème et le fait de te recevoir. Moi, je suis un peu ému, Juan, je te le dis, parce que ce soir, je vais rentrer chez moi. Et je vais dire à ma fille, j'ai parlé à Augustine Madrigal, tu te rends compte? Et là, Johan ne peut pas comprendre.
C'est énorme.
Mais quand je vais dire à ma fille, j'ai parlé à Augustine, parce que Juan est la voix française d'un personnage d'Encanto, le dessin animé qui fait fureur. Là, ma fille, elle va
avoir Disney, les yeux
écarquillés. Quoi. Ça, quelle expérience, ça devait être dingue.
C'est vrai que ça, c'était un truc de dingue, tu vois. Dans ma vie, je me suis dit qu'il y avait plein de rêves à faire, tu vois, à accomplir. Mais faire la voix d'un Disney, pour moi, c'est inatteignable, tu vois. Tu rentres un peu dans le panthéon des enfants, c'est un univers qui est féerique. Moi, j'ai grandi un peu avec ça. Je suis un grand passionné, un grand fan du Disney. Et déjà, tu sais que Disney s'intéresse à ton pays pour faire un film, c'est une énorme fierté.
Ah, bien sûr.
Et si en plus de ça, tu peux faire partie de l'aventure et prêter la voix à un des personnages, c'est dingue. Franchement, c'était magique. J'ai eu la chance en plus de le faire à côté de José Garcia, qui est un gars incroyable. Donc, ouais, super expérience.
Tu te rends pas compte, Johan, de ce que ça représente. Tu peux pas te rendre compte, mon vieux. Tu verras quand t'auras des enfants. Mais c'est vrai que c'est la Colombie comme on l'aime. Vraiment, c'est sublime. Si vous avez des enfants et que vous ne l'avez pas encore vu, ça m'étonnerait. Mais foncez, n'hésitez pas.
Ouais, Juan... C'est vrai qu'en plus, les enfants, ils te regardent avec un regard différent à partir du moment où tu fais un Disney.
Ah bah oui, c'est sûr.
Tu deviens un peu un super-héros, c'est assez dingue.
J'imagine.
C'est assez sûr. Fou.
Bon, Juan, ouais, c'est un homme très occupé, vous allez le comprendre. Vous connaissez tous les deux, hein, vous faites partie de la team Orange Running. On a d'un côté un coaché et de l'autre côté l'entraîneur, quoi. C'est ça, en fait. Hein,
c'est ça. Et en gros, Johan, c'est le genre de personne que tu vois que au départ. Tu vois, derrière, tu le vois pas jamais.
Oui, ça, je
sais.
Mais
au départ, on croise le regard.
Ça, je connais cette sensation, Yodu. Hein,
mais par contre, après, je vais manger au restaurant. il nous prépare. C'est lui qui passe aux manettes et là, il nous surprend.
Ah, bah, là, vous êtes bien servi.
C'est ça que je trouve injuste. Tu vois, c'est ça que je trouve injuste. Johan, quand on est au départ, il t'attend jamais. Alors que quand il vient dans les restos, moi, je l'attends tout le temps, tu vois. Je pars pas devant. J'attends tout le monde, moi, tu vois. Il y a un truc, c'est pas très juste.
Ouais, c'est sûr. Ouais, la vie est faite comme ça. Qu'est-ce que tu veux ?
Je suis pressé d'aller manger, c'est ça. Ouais.
Vous avez des talents différents. C'est ça qu'on retient. on démarre toujours nos podcasts par la même question. Pourquoi tu cours, Juan Arbeláez, alors ?
Pourquoi je cours ? Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé à courir, c'est que je suis arrivé en France, j'ai toujours adoré le sport et que en France, j'avais pas un salaire qui était très important au début. Et ce qui est génial de la course à pied, c'est que il suffit d'avoir une paire de baskets et après le terrain de jeu est un peu infini, quoi. On peut s'amuser, on peut voir des paysages différents, on peut parcourir un peu une ville, découvrir des endroits qui sont un peu inconnus par les gens ou le touriste lambda. Donc en vrai, c'était une question de moyens. Et après, j'ai eu un salaire, je me suis inscrit à une salle de sport, donc j'ai mis un tout petit peu de côté la course à pied. J'ai pris un peu de masse musculaire, de poids, mais je trouvais que le fait d'être un peu enfermé dans quatre murs était un peu triste. J'ai arrêté pendant un an et j'ai repris un peu le trail. Et j'ai découvert un univers dans le trail qui est fantastique. J'ai eu la chance de faire le Half Marathon des Sables, de faire pas mal de trails en montagne et je suis tombé fou amoureux de ça. Et là, depuis quelques temps, il y a la Team Orange Running qui a créé une équipe assez dingue pour s'entraîner pour le Marathon pour tous, qui est le marathon qu'on va courir, qui est le marathon des Jeux Olympiques, qu'on va courir entre l'épreuve masculine et féminine pendant la nuit. C'est un truc assez dingue. Et ils ont constitué une équipe dont je fais partie. Et du coup, Johan nous coach aussi.
Ah oui.
Et voilà, depuis... je reviens un peu sur le terrain, sur le bitume, et c'est un vrai régal, une vraie évasion.
Bon, bah parfait, et on sera là, en tout cas, pour assister à tout ça. Ça sera le 10 août, hein, je crois, d'ailleurs, le samedi 10 août, le soir. Et on pourra, pour partager cette course qui sera extraordinaire, évidemment, le marathon pour tous, on vous en parlera régulièrement dans RMC Running. Juan, avant de dérouler sur ton histoire, on attaque ton CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge ?
J'ai 36 ans.
36 ans. Tu cours depuis que t'as quel âge ?
Je pense que la première fois que j'ai couru vraiment sérieusement, c'était à 18 ans.
Ok.
C'était ma première sortie.
Calcul mental, Johan, ça fait combien de temps qu'il court ?
18.
Bravo.
Ça fait 18, ouais.
Bah, il est fort. Ça. Tu cours combien de fois par semaine, Johan ?
Hein.
Ah ouais.
Normalement, deux fois par semaine et en entraînement, deux fois par semaine parce que j'ai pas plus de temps. Donc, c'est tout le temps deux fois par semaine, Max.
Bien. Ça représente combien de kilomètres en moyenne ?
Je dois faire à peu près, en période d'entraînement, je dois faire entre 40 et 60 par semaine. Sinon, en une semaine lambda, je fais 20-25.
Ok. À peu près. Ouais. Donc, j'espère qu'en 40 ou 60, t'es à plus de 2 sorties par semaine. Sinon, ça fait des grosses sorties.
Sinon, ça fait 30 bornes.
Ouais, je fais 3 sorties en vrai. Quand je suis en entraînement, je fais 3 sorties. Ouais, je fais 2 sorties qui sont bien axées marathon et une sortie d'à peu près 1 heure, un footing tranquille. Quoi.
Ok. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier ?
J'ai fait le marathon de New York en 3:30. J'étais assez content.
Pas mal. Ah ouais.
Ouais, j'étais assez content.
Parcours difficile.
Ouais, le parcours. Alors, difficile, oui et non, parce que t'as quand même les New Yorkais, t'as les Américains, et pour ceux qui ont vécu le marathon de Paris ou le marathon de New York, il y a quand même une ambiance dans les rues qui te pousse. T'as l'impression d'avoir des jambes, de la puissance supplémentaire, tellement les Américains te donnent un peu de power.
C'est
vraiment une expérience exceptionnelle. Ouais. Donc, non, 3:30, j'étais très content et je viens de faire le semi. J'ai fait 1:40, c'est correct, c'est propre.
Voilà. Et bah ouais, magnifique. Écoute, t'es là sur tes objectifs. Quelle est ta séance d'entraînement préférée alors, Juan?
Celle où personne me dit ce que je dois faire. Je souffre à chaque fois quand il y a un entraîneur, quand il y a Dorian, parce que Dorian me met beaucoup dans les sorties.
Dorian Louvet, ouais.
Qui est un très bon coureur et qui me file des grosses sessions de fard leg, c'est hyper dur, les grosses sorties quand t'as beaucoup j'en souffre et dès qu'il y a quelque chose de spécifique, sortie marathon avec plus de 20 km, je souffre énormément. Et non, en vrai, la meilleure des sorties, c'est celle où tu réfléchis pas, tu vois, tu regardes pas ta montre, t'es juste parti, tu kiffes, tu sens que t'es rentré, que t'as fait... Ouais, au feeling, tu vois, je trouve que vraiment, dès que t'oublies ta montre... Il y a une sensation de plaisir, une notion de plaisir qui s'installe et qui est géniale.
Exactement. Juan Arbeláez, en direct avec nous cette semaine dans RMC Running. Sacré personnage, vous l'avez compris. Juan, qui a une actu au-delà de ses restaurants. Il est quand même engagé dans 16 restaurants à travers la France. T'imagines, Yodu, l'emploi du temps de
oui,
ministre.
Oui, là, je...
Voilà, c'est fou, c'est fou. Juan, qui en plus sort son troisième livre, hein, c'est ça, Requiem d'Amé, c'est ça, pour revenir sur la Colombie. Voilà, tu racontes, tu as quitté ton pays à 18 ans, on va le raconter, mais tu voulais livrer comme ça des recettes colombiennes pour partager ça avec le public français, en fait.
Ouais, je suis parti de chez moi à 18 ans, tu vois, au même moment que j'ai pris la course à pied. Mmh. J'arrive à Paris et pendant une quinzaine d'années, je fais mes armes, j'ouvre des restos, j'essaye de me retrouver un peu et de voir qui je suis, tu vois, t'es un peu dans une quête de qu'est-ce qui est exactement ta cuisine. Au début, tu apprends avec des cuisiniers, avec des chefs à faire la cuisine, les méthodes françaises, les techniques japonaises, les épices d'Afrique du Nord. Bref, tu fais une espèce de bibliothèque géante et à un moment, tu commences un tout petit peu à chercher ta patte. Et c'est en cherchant ma patte, ou un peu ce qui était ma faiblesse au début, qui était de venir d'ailleurs, c'est devenu ma force. C'était un peu mes racines, c'était... ma Colombie, c'était ses souvenirs, c'était ses couleurs, c'était ce piment, ce citron vert et ces produits qui sont tellement différents. Donc c'est là où j'ai commencé un peu à plonger dans mon passé et dans mon enfance et je me suis rendu compte que j'avais une richesse de dingue, c'était de venir d'ailleurs et j'ai commencé un peu à mettre en avant du coup la Colombie. J'ai ouvert un premier restaurant qui s'appelle Basurto, qui est dans le 6e arrondissement. J'ai ouvert un deuxième à Tignes, sur la même enseigne, et à un moment je me suis dit il faut pas que j'oublie tout ce que ce pays m'a donné, il faudrait quand même que je réussisse un peu à lui rendre service, à lui rendre un peu ce qu'il m'a donné, apporter mon petit grain de sable. Et j'ai décidé de sortir un troisième livre. Alors c'est pas juste un livre de cuisine, c'est un carnet de cuisine, c'est un carnet de voyage, c'est un très bon docu si on va faire un premier voyage en Colombie où il y a plein de conseils, plein de lieux à visiter, plein de restaurants à faire. Il y a un truc très personnel parce que j'ai écrit pas mal de passages avec ma sœur qui a une plume assez exceptionnelle. Donc, il y a aussi des histoires très personnelles. Si t'aimes bien lire les histoires un peu d'un gamin perdu dans une pampa ou dans un marché à Colombie, c'est vachement bien. Donc, c'est de l'évasion, c'est de la cuisine, c'est du voyage, quoi.
Je suis impressionné par ton français, hein, parce que déjà, tu parles très bien français, ça je le savais, mais t'as aucun accent, alors que quand t'es arrivé à 18 ans, tu parlais français ou pas du tout ?
Ouais, ma mère était absolument passionnée de la France, enfin, elle a toujours été fan.
Ok.
Et elle nous a mis dans une école française quand on était gamin.
D'accord.
En 6e, on m'a gentiment remercié parce que j'étais trop sage. Et j'ai fini dans une école.
On imagine, ouais.
Ouais, tu vois. J'arrive pas trop à rester assis. C'est pour ça que
j'ai
un peu hyperactif. Ouais. Ouais. Et j'arrivais pas trop à rester assis. Et voilà, enfin, le français reste. J'ai fini dans une école colombienne, mais le français reste. Et quand j'ai décidé de faire la cuisine, et bah, quoi de meilleur endroit que la France,
c'est
quoi.
Sûr.
C'est vraiment le.
Tu viens en France pour la cuisine, alors vraiment. Ouais.
Ouais, 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 je viens pour la cuisine et. Et j'ai de la chance de vivre un parcours exceptionnel côté des plus grands, quoi.
Alors, je vais raconter. Hein, donc, tu arrives en France. Déjà, tu arrives à l'école Cordon Bleu à Paris en 2007. 2 ans plus tard, tu intègres la cuisine de Pierre Gagnère, chef 3 étoiles. Ensuite, de grands établissements, le Georges V, le Bristol. Et puis, cette décision par la suite d'ouvrir toi-même tes propres établissements. Il y a aussi des passages télé dont on parlera, mais quelle est la place du sport à ce moment-là quand tu as 18, 19 ans? Ça te permet de t'évader des cuisines parce que c'est un métier soumis à pression. On a reçu un chef pâtissier d'ailleurs il y a quelques mois qu'on salue, autre membre de la Team Orange, Nicolas Pacciello. Toi aussi, c'était un moyen de t'évader, de créer du lien avec une brigade ou tu courais tout seul, Juan?
Bah moi, à l'époque, c'était plutôt un exutoire. En vrai, je créais pas trop de liens au début dans le sport vis-à-vis de en cuisine parce qu'on passait, tu sais, au début, tu passes 14, 15, 16 heures en cuisine, t'es tout le temps foutu dedans, t'as plein de problèmes, t'es debout tout le temps, c'est un métier aujourd'hui, il commence un peu à se calmer, à se tranquilliser, mais à l'époque, quand j'ai commencé le métier, c'était très très dur. Donc le sport était plus un exutoire qu'une façon de garder lien. Pour ça, enfin, tu peux pas enlever le lien de quelqu'un avec qui tu passes 6 jours par semaine, ouais. 16 heures par jour. Donc, non, pour moi, c'était l'exutoire. Au début, c'était... Quand j'étais chez moi, je nageais beaucoup. J'ai nagé jusqu'à mes 15 ans. C'était vraiment... c'était ça. Moi, je pense que c'était là où je dégageais toute cette énergie, cet excès d'énergie que j'ai toujours eu. Et j'ai toujours eu besoin. Aujourd'hui, je cours 2 fois par semaine. Mais quand je n'arrive pas à faire ces 2 fois par semaine, je fais des hits. Je suis obligé d'avoir 2-3 fois, 2-3 rendez-vous par semaine minimum dans lequel... Je sors tous les problèmes, la rage, la haine, l'amitié, les pleurs, tous les problèmes que t'as, quoi. Tu vois, tu vides ton sac.
Alors, c'est marrant, les histoires sont différentes. Johan est un athlète de haut niveau, donc toi, Johan, courir, c'est ton métier. Mais ça te sert aussi au quotidien, comme ça, d'évacuer certaines frustrations, certaines exaspérations. Quand t'es pas bien dans ta tête, le footing du matin ou du soir peut te permettre de relativiser aussi.
Bah, c'est dans toutes les depuis le début qu'on fait les épisodes RMC Running, c'est vrai qu'on a des histoires tellement différentes, mais c'est vrai que pour la plupart et pour tout le monde, c'est par la course à pied que tu te retrouves avec toi-même, tu vois. C'est vraiment le truc dans lequel tu peux te dire que si tu as besoin de réfléchir, si tu as besoin de penser un peu, de te défouler, d'évacuer un peu la pression, de poser le cerveau ou à contrario, de remettre des fois des idées en place, bah franchement, tu prends tes baskets, tu vas courir 1 heure, tu reviens... T'as transpiré, t'es lessivé et d'un point de vue du cerveau, bah, des fois tu te remets un peu en place et c'est vrai que pour le coup chacun a sa façon de pourquoi il court, mais au final c'est souvent la même réponse, ouais.
Parce que Juan, donc il y a 16 restaurants, il y a ce livre qui vient de sortir qui a été écrit avec ta sœur, il y a la participation régulière aux Grosses Têtes par exemple, donc tu es aussi chroniqueur. À quelle heure de la journée tu cours finalement quand tu vas courir? C'est quoi? C'est le soir? C'est tôt le matin? Comment tu t'organises?
C'est assez difficile et c'est pour ça que pour moi les entraînements marathon spécifiques sont très compliqués parce que Johan connaît, c'est des sorties dans lesquelles tu es obligé de mettre un peu de volume d'entraînement, donc c'est des longues sorties, c'est des sorties de 16, 20, 25, 26, 28 des fois et c'est des sorties de 2 heures, quoi. Enfin, c'est très long. Et souvent, je démarre le service à 21h, 21h30, je rentre à 21h30 à la maison, et là, je pars courir, tu vois. Rentres à la maison, il est minuit, t'as pas bouffé. Et moi, mes journées, elles commencent à 8-9h. Donc, en vrai, pour moi, les entraînements spécifiques pour le marathon, c'est un truc hyper compliqué, Je souffre à les caler. C'est pour ça que j'adore le trail, c'est pour ça que j'aime beaucoup la course à pied sur montre, Tu sais, à différence de beaucoup de gens, peut-être, c'est marrant, tu disais, la course à pied me permet de me reconcentrer un peu sur moi-même et de réfléchir. Moi, c'est un moment dans lequel je ne réfléchis pas. Tu vois, c'est le seul moment...
Tu souffles, quoi.
...où je souffle et il y a une jambe après l'autre. Ouais, j'adore le fait d'avoir cette thérapie dans laquelle tu ne penses à rien. Tu es juste en train de regarder en avant. Il y a tes jambes l'une après l'autre qui sont en train d'avancer, quoi. Et c'est vraiment ce moment, cette parenthèse dans laquelle ton cerveau il se pose. Moi-même, quand je me couche des fois le soir, eh ben, le cerveau il se met à tourner et ça s'arrête pas. Ah, tu penses à la nouvelle recette, le nouveau projet, le coup de fil que t'as pas passé, le podcast d'RMC, est-ce que c'est 14 ou 15 heures? J'ai pas vu le lien passer, tu vois. Mais en fait, c'est le seul moment dans lequel tu débranches un peu le cerveau, c'est là. Ouais. Et je trouve que c'est. Moi, ça ne me fatigue pas, la course à pied, ça me repose presque, tu vois, j'ai ce truc cérébral de débrancher.
Dis-moi, ça fait du bien. Juan, que fait le chef quand il rentre chez lui à minuit, qu'il vient de s'envoyer 25 bornes et qu'il n'a pas mangé? Avoue-nous quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu
manges? Le pire de tout, je te jure, le pire de tout, c'est que je suis un... tu sais, mon métier, c'est pas juste mon travail, c'est vraiment une passion.
Bah oui.
Et donc, j'adore prendre le temps pour me faire à manger. Après, quand je suis... Ouais, j'adore cuisiner. Après, en vrai, quand je suis en phase d'entraînement et que je brûle beaucoup, tu vois, donc, tu disais quel est le secret pour bien manger et pouvoir être équilibré. En vrai, quand tu cours, quand tu fais des sorties aussi longues et que tu dépenses tellement, tu peux tout manger. Tu peux vraiment tout te permettre. Et moi, mon plat préféré fétiche... Ça. Non, mais vraiment, tu peux tout taper, quoi. Et moi, mon plat fétiche, c'est vraiment un énorme bol de riz avec un tout petit peu d'huile de sésame, de la sauce soja. Par-dessus, je fais une grosse sautée de légumes, légumes de saison. Donc là, en ce moment, c'est champignons, navets, oignons, déglacés avec un peu de sauce soja, un peu de citron vert, et je balance par-dessus des herbes, coriandre, cépette, ciboulette, sésame torréfié, quelques graines de courge. Et là, les gars, je te jure, tu fais un gros bol comme ça avec un peu de volaille ou un peu de poisson ou tout simplement veggie, c'est régal.
Et après, tu te couches à 4 heures du mat et puis comme ça, t'as fini.
Ouais, tu peux te réveiller 2 heures après pour repartir pour ta journée.
C'est ça. Non, mais c'est le problème. Moi, je m'attendais à, tu vois, un gros burger, un truc, Johan, un sandwich à l'arrache avec un bout de pain qui traîne.
Pizza, ouais, c'est ça, une pizza surgelée. Ouais. Non,
la cuisine, c'est sacré, le bon, Juan.
Le burger, c'est le dimanche, tu vois, dimanche. En gueule de bois. Samedi, comme t'appuies, dimanche, après tu te mets un bon burger.
Il y a ça aussi, parce que tu fais partie d'un métier donc, de restauration. Ton boulot, c'est aussi de développer tes restos, de rencontrer des gens, etc. Pourquoi pas de prendre un verre de temps en temps? Est-ce que ça te permet d'évacuer, d'éliminer tout ça aussi, de faire du sport et de la course à pied en particulier, Juan?
Le sport, en vrai, quand j'ai commencé à le faire, une des raisons, c'était ça aussi. C'est qu'à un moment, quand la vie, tu as besoin d'un certain équilibre. Et moi, j'adore le fait de salir pour nettoyer, tu vois, cette notion. Moi, faire du sport, manger... Non, mais c'est vrai, moi, faire du sport, manger des brocolis et me faire des jus détox tout le temps, 7-7, je pourrais pas, je comprends pas cette notion de nettoyer du propre. Moi, si je mange, j'adore manger gras, j'adore boire un coup, j'adore des fois boire un coup de trop et manger un petit peu de trop, mais il faut l'équilibrer. Donc, du coup, le lendemain, on va faire un peu gaffe, je vais faire une sortie un peu plus importante ou deux sorties, enfin, peu importe, mais... Cette notion d'équilibre, pour moi, elle est très importante. Ouais.
Ça te plaît, ça, Johan, hein?
Oui.
Voilà, salir pour nettoyer. C'est un bon concept, ça. Voilà, c'est pas
ça.
Mal.
Ça me plaît, ouais. Ouais.
Mais le goût, tu vois, le goût de la bière après avoir fait un semi-marathon n'est pas le même qu'avant.
Eh
bien,
bien sûr.
Ouais, surtout quand tu as battu ton record, que tu es fier de toi.
Eh ouais.
Exactement.
Exactement. Mais tu sais, Juan, nous, on en a souvent parlé, mais il y a un mythe kényan comme quoi il mangerait, il serait très restreint au niveau de l'alimentation et tout. Johan nous l'a dit souvent, les kényans, quand ils s'envoient une sortie longue, le premier truc qu'ils prennent, c'est un soda. Hein.
Ah oui.
Direct, il n'y a pas de question à se poser là. Tu dis, il faut se faire plaisir de temps en temps. Toi, Johan, mis à part les périodes spécifiques et encore, l'alimentation, c'est jamais un sujet d'inquiétude d'interrogation. Quoi. Tu fais jamais attention à ce que tu manges.
Ouais, non, ça n'a jamais été vraiment un souci de par mon poids et ça, c'est naturel. Tu vois, je sais que je peux manger un peu tout et n'importe quoi. Je ne vais pas prendre, même en période de coupure. Quand je fais le fou, je prends pas de poids, donc ça c'est quand même une chance. Et après, ouais, je m'interdis rien, mais par contre, je vais le faire de façon parcimonie, tu vois. C'est vraiment l'aliment plaisir après une bonne sortie longue, la chocolatine après une sortie difficile. C'est vraiment le truc, l'aliment plaisir qui va me permettre de pas non plus être trop dans la privation, tu vois. Si t'es sans cesse dans la privation, au bout d'un moment, tu peux pas tenir sur le long terme. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui je cours encore à l'âge que j'ai.
Ouais. Non, mais c'est sûr, il y a forcément un lien. Si on parle, Juan, de course pure et dure, donc tu rejoins la Team Orange, tu fais un peu, t'as fait un peu de trail avant, t'as fait le half marathon des sables, des épreuves qui étaient très difficiles. Est-ce que la carrosse marathon de New York, ça te met quand même une petite claque et là tu t'entraînes un peu plus, tu te concentres plus sur l'objectif? Je rappelle, 3h30, c'est 12 km/h en marathon, donc c'est quelque chose de solide déjà.
Ouais, en vrai, j'avais toujours couru pour plaisir, j'avais jamais vraiment fait un entraînement spécifique, tu vois, même pour le half marathon des sables. J'avais fait 3 sorties de 20 km, mais j'étais un coureur, je courais tout le temps, je faisais des sorties de 10, 12 sans aucun problème. C'est-à-dire que j'avais cette capacité d'encaisser un peu de course à pied facilement. J'ai un seuil de douleur mentale qui est très élevé, c'est-à-dire que je peux encaisser des souffrances physiques, je pense, très hautes. Je suis capable de me mettre dans des situations... assez poussé, et je pense que ça m'aide mentalement. Ouais, mentalement ça m'aide.
Ouais.
C'est là que je Je peux finir sur les genoux, sur les mains ou en train de ramper, mais j'arrêterai pas. Moi, le fait de lâcher n'est pas trop dans ma génétique. Donc, je pense que ça aide. Et après, oui, le marathon de New York, j'avais envie de le vivre avec plaisir parce que c'est quand même une des épreuves ultimes. J'avais déjà couru 2 marathons dans ma vie. Et je sais à quel point c'était dur. J'avais envie de faire un temps et pas être le dernier. Donc, voilà, je me suis mis 1 mois et demi. D'entraînement avec 3 sorties par semaine sérieuses et ça, enfin, tu vois le résultat, c'est foudroyant. C'est à dire que quand tu as des vraies sorties spécifiques pour le marathon et que tu as quelqu'un qui te suit et que tu es un peu sérieux, en 1 mois et demi, moi j'ai vu le changement, c'était abusé. Donc,
et tu as vu quel bonheur c'est quand tu commences à courir sans douleur et que tu te sens bien à des allures qui étaient difficiles auparavant. Ça, c'est un vrai sentiment de satisfaction personnelle, hein, ça c'est sûr. C'est quand tu parviens comme ça à être dans cet état là. Mais Johan, 3 entraînements par semaine pendant 1 mois et demi et 3h30 au marathon, là on a un bon potentiel quand même.
Après il court, il l'a expliqué, hein, il courait aussi aux sensations, il courait un peu avant, donc tu sens qu'il y a un terreau propice à la performance, ouais, à élever un, sortir quelque chose, ouais.
Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter ton semi de Paris, parce que là aussi c'était un bon parcours, des bonnes conditions, tu t'es régalé tout du long?
Avant de te raconter le semi, tu vois, parce que je trouve qu'en France on parle souvent des succès et peu des échecs.
Ouais.
Je revenais comme un cadeau de mon marathon de New York avec mon 3:30, j'étais content parce que j'avais fait le temps que je voulais. Et il y avait les 10 km de Paris, des Champs-Élysées.
Oui, bien sûr.
Et là, attends, c'est 2 mois après le marathon de New York, donc c'est Noël, je suis rentré chez moi, j'ai bu peut-être 270 litres de bière, tous les alcools et les eaux de vie possibles et imaginables, j'ai fêté 6 fois Noël, 5 fois le jour de l'an, je suis rentré, il y avait l'ouverture des restos, c'était n'importe quoi. Jeudi, avant les 10 km, je prends une grosse tôle avec des copains et je dis bon... Ça va passer.
T'as vraiment voulu salir avant de nettoyer, quoi.
Ah là,
tu
vois, là, il s'est dit,
ouais. Ah non, mais là, j'étais. En plus, je me suis dit, t'inquiète, ça passe. C'est que 42, 10, tu vois. C'est tellement simple. Et en plus, j'ai le backup Marathon New York. J'avais pas couru depuis le Marathon New York.
Ah oui,
oulala. Au bout du 3e kilomètre, j'étais en train de vomir mes poumons. J'étais tellement mal. Je voyais tout le monde me dépasser. Je te jure, c'était un enfer. Je fais 46 minutes sur le 10, ce qui est pas loin de mon allure marathon. Mon allure pour le 10 est pas très loin de mon allure marathon. J'étais explosé.
Et parcours vraiment difficile. Parcours difficile.
Après, ça c'est le truc du coureur, chercher des excuses. Pour
dire c'est pas faux.
Réussi son temps.
Il sait qui.
C'est pas faux.
C'est toujours la faute du parcours.
T'as raison.
De toute façon. Non, là, j'ai pris une énorme tempête. Ouais. J'ai fini le truc et je me souviens que Dorian était là, qui m'entraîne régulièrement. Et il m'a regardé en mode, mais t'es vraiment toi, tu t'adores te mettre dans des situations comme ça. J'ai promis que j'allais me remettre à l'entraînement. Et j'ai repris du coup la course à pied et j'ai vécu un semi de Paris qui était génial pour le coup. Parce que je fais une 40, je le fais pas avec l'envie de faire un temps.
Ouais.
Je le fais vraiment au plaisir, au feeling, et je cours un marathon, un semi, mais vraiment kiffant. Donc l'entraînement fait toute la différence.
Il n'y a pas de secret.
Là, ça te fait du bien, coach, quand on entend ça.
C'est vrai que je le rabâche assez, mais c'est vrai que en course à pied, il n'y a pas de secret. Et l'avantage comme l'inconvénient, c'est que plus tu vas t'entraîner, plus vite tu vas progresser. Et à contrario, moins t'en fais, même si tu as des qualités. Quand tu t'entraînes pas de 2 mois, c'est un sport tellement ingrat et la musculature est mise tellement à rude épreuve avec les impacts que tu peux pas. C'est un sport où tu peux pas tricher. Donc,
tu peux pas.
Mais sur un sport co, ça se voit pas. Tu vois, si tu es dans une équipe de foot,
tu peux
pas.
Tu peux te planquer.
Tu te mets le long de la touche, tu fais 2-3 axels. Bon, les mecs se disent
Là, ça marche pas et tu.
Ouais.
Et pour le coup, le truc, c'est que les épreuves, quand tu commences à vivre déjà 46 minutes, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand tu fais 10 km et que tes jambes, c'est du bois au bout de 3e, tu as l'impression vraiment, c'est-à-dire que le marathon,
long,
j'ai vécu les 10 km, c'était éternel. Je te jure, j'avais l'impression de ça finissait jamais. J'ai vu, en plus, j'ai des potes rugbyman, tu vois, que j'ai dépassé à toutes mes courses à pied de toute l'histoire et que à chaque fois, je me moque. Ah, mais vous êtes vous êtes gros, vous êtes trop lourd, vous êtes machin, je me moque. Ils m'ont tous dépassé, putain, je te jure, c'était horrible. Les 10 km, c'était exceptionnel. Donc attention à ce qu'on dit et entraînez-vous, les gars. Parce
et voilà.
Que...
une ouais. claque salvatrice, en tout cas, parce que ça t'a permis de te remettre à l'endroit. Johan, mais quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un comme Juan? Ça peut servir à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour s'entraîner, mais qui veulent malgré tout progresser et préparer de grandes échéances. Quand on a un emploi du temps chargé comme ça, quels sont les bons conseils et les bonnes pratiques à adopter pour que Juan conserve un niveau et pourquoi pas l'augmente d'ici au marathon olympique qui l'attend le 10 août, par exemple?
Ce qui va être dur, c'est il faut adapter l'entraînement en fonction de son emploi du temps, de sa fatigue. Parce que la problématique, c'est que si tu restes sur ton entraînement de base, bête et méchant, que l'entraîneur peut te donner sans prendre en compte, comme tu le dis, la fatigue liée au boulot, les horaires, les contraintes comme ça, tu vas droit à la blessure. C'est-à-dire que si tu te tapes une sortie longue de 25 km et à minuit du soir et que le lendemain à 7 heures, tu es debout dans ton restaurant, trois jours après, t'as, musculairement, tu vas droit à la contracture ou tu vas avoir les tendons qui vont commencer à surchauffer. Donc, il faut adapter l'entraînement en fonction de comment tu te sens, du temps que tu as à mettre dans l'entraînement. Et des fois, si c'est une période un peu chargée, tu sais que tu as 10 jours de rush au boulot parce que tu dois rendre un dossier, parce que tu as 10 jours chargés, là, tu te contentes de faire du footing, t'adaptes, tu fais peut-être un petit fractionné court, un truc pour te restimuler, pour te redonner la pêche et pour aller chercher un peu des fibres rapides pour te stimuler. Et par contre, quand après tu es dans une période où tu auras un peu plus le temps de récupérer et où tu auras un peu plus le temps de mettre en place ta routine quotidienne, et ben là tu peux y aller. Donc c'est vrai que là, moi, le conseil que je donne, c'est vraiment d'adapter avec l'entraîneur en fonction du temps que tu as à mettre et ton ressenti, tu vois. Si tu es fatigué, raccourcis les séances, fais pas du long, mets un peu d'intensité, tu vois, pour te restimuler.
C'est vrai que souvent, on parle de l'entraînement, mais on peut aussi oublier de parler du repos, quoi. Tu vois, moi, c'est marrant, mais là, je vais voir un kiné, je vais voir tout le monde parce que je veux vraiment m'entraîner après les 10 km des Champs-Élysées. Et je dis, je vais mettre tout de mon côté, je vais voir le kiné, je lui dis, est-ce que je peux me caler, venir te voir, je sais pas, tous les 15 jours, tous les 20 jours. Et il me regarde et me dit, tu bosses tous les combien? Je vais à peu près 6 jours sur 7. Enfin, tu dors combien par nuit? Je lui dis, je sais pas, entre 5 et 6 heures. Il me dit, tu sais quoi? L'heure que tu vas dépenser en venant me voir, dors là. Parce que c'est plus important, c'est plus important que tu récupères et que tu dormes à que tu aies un kiné qui est en train de te masser. Donc, préconise le repos. Et ça, c'est vrai que souvent, on peut l'oublier.
Erwan, une heure de sommeil en plus par jour, ça fait une nuit de plus à la fin de la semaine.
C'est vrai.
C'est vrai, hein,
quand tu vis comme ça.
Mais on l'avait dit, d'ailleurs, je ne sais plus dans quel épisode, Johan, peut-être dans le surentraînement où c'était il y a un peu plus longtemps, mais on prend toujours en compte la fatigue que va générer l'entraînement, mais l'important, c'est de prendre en compte la fatigue globale en fonction de votre métier, votre activité professionnelle, votre vie de famille aussi. C'est un tout, en fait.
C'est un tout.
Il ne faut pas seulement se dire, ma sortie running, c'est du fractionné, je vais être fatigué, donc c'est à cause de ça. Non, c'est la fatigue globale de la journée, c'est ça qui compte.
C'est ça. Et
quand on planifie l'entraînement.
Si t'as des métiers manuels, les mecs qui sont sur les toitures toute la journée, machin truc... tu vas pas le faire bosser de la même façon que quelqu'un qui est assis derrière un bureau, derrière un écran, tu vois. C'est même là-dessus, tu dois pouvoir adapter l'entraînement en fonction du métier du gars, tu vois, et de la fatigue générée par son travail et ce qu'il fait au quotidien, ouais. Ça c'est important. Ouais.
Juan, au-delà de marathon olympique qui t'attend, est-ce qu'il y a d'autres défis sportifs auxquels tu t'es inscrit que tu veux te lancer?
Ouais, je fais le 40 km de l'UTMB.
C'est magnifique.
C'est l'OCC. Je fais l'OCC, il y a 2000, je crois, de dénivelé, 2,5 de dénivelé, un truc comme ça, avec 42 km de trail. Et en vrai, j'adore ça, tu vois. Là, je me suis mis à recourir un peu sur bitume, mais j'ai un tout petit peu de manque de ce genre d'entraînement, de ce genre de course. Je trouve que je suis plus adepte physique et intellectuellement, enfin, mes capacités. J'adore courir quand je suis un peu en pleine nature. Je trouve qu'il y a un truc assez dingue.
Et toi qui as grandi en Colombie jusqu'à tes 18 ans, est-ce que la Colombie est une terre de courses, de trail justement, de running comme ça, de pratique de la course à pied ou pas vraiment? Il y a des stars qui sont connues en vélo chez les Colombiens, il y a le foot évidemment qui vampirise un peu tous les autres sports, mais est-ce que la course à pied a une place en Colombie?
Ouais, on court pas mal. Après, je pense qu'on n'a pas des grosses têtes en running. On a, comme tu le dis, des cyclistes dans les top 50 mondiaux. On a Egan Bernal, Rigoberto Urán, on a Nairo Quintana, tu vois, on a plein de Colombiens. Dans la course à pied, je connais un peu moins.
Je crois pas. Si tu as croisé des Colombiens dans les pelotons, mais.
Non, pourtant, c'est un. Comme pour le vélo. C'est un pays qui s'y prête de par les plateaux et l'altitude, avec les montagnes, un peu comme au Kenya ou autre, avec des hauts plateaux et des gens qui vivent là-haut.
Ouais, je pense que ça pourrait s'y prêter, mais.
C'est peut-être une question culturelle, c'est tout.
C'est ça.
Ouais. Et il y a le vélo qui a pris énormément d'ampleur. Aujourd'hui, ça fait un peu partie des sports nationaux, parce que. National, je ne sais pas si on dit national.
Nationaux, ouais.
Tu sais, c'est le problème de parler très bien français, c'est que des fois, je fais des petites fautes comme ça et on pense que je suis un Français teubé et pas un Colombien très intelligent.
Mais tu veux que je te dise, rassure-toi, si nous, on avait dû faire le podcast en espagnol, on serait bien marré, là, je pense. Voilà. Ah, Johan.
Si, c'est grave.
Voilà, donc, non, mais je pense que, ouais, du coup, là, le vélo a pris beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie. Et du coup, ça, c'est vrai que ça attire beaucoup de monde. La course à pied, je pense que c'est un peu moins connu. Tu vois, même le rugby, aujourd'hui, on a la capacité pour avoir des joueurs de rugby qui sont hyper puissants, hyper rapides et entraînés à des hauteurs qui sont monstrueuses. Mais le rugby n'est pas trop implanté encore. Ça viendra.
Juan, reste avec nous parce que tu vas animer tout de suite la séance.
RMC, la séance.
C'est pas beau ça. Maître Yodu va mettre les pieds sous la table, tranquille, son assiette, sa fourchette.
Les fourchettes. Voilà, fourchette couteau.
C'est le chef Arbelaez qui se charge de la séance cette semaine. Les bons conseils pour manger sainement sans se priver. Alors tu nous l'as dit, on l'a un peu compris dans ta philosophie, Juan. Toi, à partir du moment où tu fais du sport, tu ne te prives pas trop. Malgré tout, est-ce que tu as des conseils comme ça à nous donner? Respecter un bol alimentaire équilibré. On peut se faire plaisir, on peut manger de bons produits, mais il ne faut tout de même pas manger n'importe quoi, surtout quand on est sur des prépas spécifiques, Juan.
Oui, je pense. Alors moi, j'aime bien c'est cette variété, tu vois. Je trouve que dans la variété, il y a le plaisir. Il faut avoir. Moi, j'aime pas trop le pain, mais j'adore toutes les. J'adore le riz, j'adore les lentilles, j'adore les haricots, j'adore les petits pois, j'adore avoir une base de céréales qui soit bien importante, quinoa, même des chia. Après, j'adore les légumes et je suis un grand fan. Il faut manger et surtout essayer de manger de saison. Donc, ouais. En ce moment, on a les champignons, chou-fleur, brocoli, les radis qui commencent à arriver. On a les premières asperges, le poireau, courge butternut. Tu vois, c'est vraiment coloré et magique. Et après, on a toutes les herbes aromatiques et tous les assaisonnements et tous les huiles. C'est très, très bon, tu vois, de travailler et de rentrer dans l'alimentation une bonne huile pressée à froid, d'huile d'olive, des huiles de colza, des huiles de tournesol, des huiles de pépins de raisin, d'huile de cameline, tu vois. Il y a beaucoup de richesses là-dedans. Et c'est vrai qu'on ne soupçonne pas trop, mais c'est absolument magique. Moi, les viandes rouges, je les mets un peu de côté en période d'entraînement.
Mais toi, mais, en période d'entraînement, tu ne manges pas de viande rouge, quasiment pas. Okay.
J'en mange un peu moins parce que la digestion est un tout petit peu plus compliquée. Mais une fois tous les 15 jours ou tous les mois, je me fais une belle côte de bœuf avec des copains. Comme ça, tu vois, parce qu'il y a une notion de pas trop se priver. Je trouve qu'il faut quand même garder le plaisir, même dans des situations d'entraînement. Il faut toujours garder un peu cette notion de plaisir et derrière équilibrer un peu plus. Le lendemain, tu fais un peu gaffe. Mais je mange beaucoup plus de poissons et beaucoup plus de volailles quand je suis à l'entraînement. Pour le coup.
Je vais me servir de la magie du chef pour des cas concrets. Parce que là, tu nous as cité plein de légumes. Tu nous as cité évidemment des féculents. La différence entre toi et nous, par exemple, c'est que toi, tu sais très bien les cuisiner. Quels conseils, quelles recettes concrètes tu peux donner à ceux qui nous écoutent, qui veulent bien manger mais se faire plaisir? Tu peux conseiller comme ça.
Tu vois, ce qui est génial, c'est qu'en plus aujourd'hui, si on fait vraiment des entraînements à la semaine, moi ce que j'aime, c'est dimanche, tu fais de l'eau bouillante et là tu cuis dans l'eau bouillante ton riz, tu cuis tes lentilles, tu cuis ton quinoa, tu cuis. Et ça, tu réserves dans des boîtes en plastique dans le frigo pour toute ta semaine. Et à côté, tu fais de la truite, du cabillaud, des 3-4 poissons différents que tu vas cuire dans l'huile d'olive. Tu vas le refroidir, tu vas le mariner avec du jus de citron, un peu de sauce soja, de la menthe, de la ciboulette, un peu d'estragon. tu mélanges avec ton poisson et ça, tu le poses au-dessus de ton céréale. Et tu vas récupérer tes légumes. Donc là, tu chopes champignons, choux-fleurs et quelques asperges, par exemple. Tu les fais saisir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Tu déglaces pareil avec un tout petit peu de vin blanc, un peu d'eau et, ou du bouillon de volaille. Si tu as un bon bouillon de volaille qui est fait maison, c'est topissime. Un coup de sauce soja, du jus de citron. Et tu poses ça sur ton poisson. À ça, tu rajoutes des graines de courge, des noix de cajou et quelques herbes fraîches. Oui. Tu mets le capuchon et là, tu as ta bouffe pour la semaine. Tu vois, tu as lundi, mardi, tu as toute la bouffe pour la semaine.
Ah ouais.
Tu les manges en bol comme ça, en salade, et c'est absolument magnifique. Et même si un jour tu veux le manger chaud, eh ben celui que tu as fait avec de la volaille, par exemple, si tu as fait un petit bol avec de la volaille, tu fais deux œufs au plat, tu le balances par-dessus, et là, c'est formidable. Là.
Oui,
là,
mais
c'est la vraie vie. Là.
Alors, j'entends ce que tu dis, et ça donne envie de, quand tu le racontes, comme ça, on a tous faim là, quand on t'écoute.
C'est ça.
Mais tu perds un peu la gourmandise quand tout est préparé en amont, tu vois ce que je veux dire. T'as pas les légumes sont pas. Il faut les réchauffer, donc ils sont pas chauds comme quand tu les sors de la poêle. C'est un peu différent quand même. T'es obligé. L'effet culant, je comprends, mais pour le reste, t'es obligé d'adapter, de refaire un peu de cuisine les soirs concernés. Quoi, le mardi,
non, pas vraiment. En vrai, quand ton poisson il est saisi, juste que tu poses tous tes éléments, tout a été cuit et tu surposes tes éléments, derrière tu as juste à réchauffer ton assiette et ça marche nickel. Enfin, moi je suis contre le réchauffer au micro-ondes, mais si t'as un plat, tu poses ça et tu fous au four, ça se réchauffe tout ensemble et c'est délicieux. Et tu as des repas qui sont vraiment équilibrés. Quoi. Et ça, c'est magnifique.
Yodu, tu es du genre à être comme ça, à préparer tes assiettes ou non tu cuisines non. Au jour le jour, toi. Comment tu fonctionnes d'ailleurs?
Ouais, moi, je ne prépare pas les assiettes à l'avance, mais par contre, je sais quasiment. Pas, je prépare mes menus plutôt. Tu vois, okay. Je sais ce que je vais manger, bah, ça c'est plus en fonction de mes entraînements. Par exemple, bah, typiquement, je ne vais pas manger de viande rouge avant une séance de fractionné. Tu vois, si j'ai une séance de fractionné prévue à 16h30, je ne vais pas m'enquiller une grosse côte de bœuf à 12h30.
Ouais.
Donc ça, vraiment, tu vois, je prévois mes menus en fonction de mes entraînements. Donc les protéines... après les entraînements, après les musculations, les œufs et compagnie, la viande blanche et les féculents avant la séance et généralement après la séance. Et après tout ce qu'il y a autour, bah c'est plus des salades, des légumes, les choses comme ça. Donc ouais, je prévois mes menus, ouais.
Ok. Est-ce que tu as une routine?
Tu manges combien de fois par jour?
Ah ouais, ça c'est intéressant aussi, ouais, t'as raison.
Moi je mange que 3 fois par jour.
Ah, tu fais pas de collation?
Okay. Non, jamais. Bah parce que je cours à 16h30, donc tu sais, quand t'es au chômage comme moi, coureur à pied pro, les journées sont longues si j'attends de courir à 22h.
Ouais, le problème, c'est que tu cours à 16h30, donc à 19h t'as faim.
Donc tu manges contre, comme une personne âgée alors je mange une banane direct après l'entraînement à 18h30.
Ah ok.
Et après, par contre, je mange tard, moi. Je mange à 20h, 20h30.
D'accord.
Enfin, tard.
Est-ce que ça, c'est pas tard. Ça, c'est tard pour les Allemands.
Oui, oui.
Hein. Ouais, ouais. Non, non, mais... quand tu rentres de l'entraînement, t'as faim. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est tard, ouais.
Est-ce que t'as une routine les 3 derniers jours avant une grosse échéance? Est-ce que c'est toujours les mêmes repas, quoi qu'il arrive, Yodu?
Ah non, ouais, non, non. Avant les grosses échéances, suivant les marathons ou même un semi, tu vois, je mange de totalement différent de ce que je peux faire avant de façon classique. Tu vois, avant un marathon, je vais enlever vraiment tous les légumes qui peuvent être acides, et qu'en temps normal, je vais manger la tomate, les légumes un peu cuits, les plats en sauce. Tu vois, moi j'aime bien mettre des sauces. Un peu de pesto, les choses comme ça dans mes pâtes, ou les sauces bolo ou autre. Là, 3 jours avant un marathon, tu vois, j'enlève vraiment tout ce qui est sauce. J'enlève un peu les... pareil, sur les eaux, j'arrête les eaux salées gazeuses, tu vois, type ceinture et tout.
Okay.
Ça, j'en prends beaucoup en période d'entraînement pour recharger en bicarbonate. Mais par contre, j'arrête avant les compétitions parce que tu stockes un peu trop de sel. Et c'est un peu du sel caché et tu fais de la rétention d'eau, donc j'arrête ça. Les wok et tout, pareil, avant les compétitions, j'en mange jamais. Vraiment, avant la compétition, c'est vraiment du classique. C'est des pâtes huile d'olive, blanc de poulet ou poisson. Je reste là-dessus. Et petite salade avec avocat, betterave. Et ça, pendant 2-3 jours, c'est quasiment le même repas à tous les repas. Ouais.
Okay.
Et yaourt, laitage... en dessert, tu vois.
Juan, un peu de fiction.
Et la veille du marathon,
La veille, c'est plus
la veille du marathon,
par contre,
c'est
je mange pas
pâtes.
De pâtes, ouais, c'est des riz, riz ou pommes de terre riz. Vapeur et généralement riz, tu vois, pour plâtrer l'estomac et pas avoir de soucis gastriques le lendemain. Tu vois,
moi, c'est. Mais il faut pas que le faut pas que le congélateur déconne pendant la course, quoi.
Voilà, c'est ça.
Sinon, il y a les glaçons qui risquent de sortir.
Ouais. Il faut qu'il soit bien au frais, ouais. Donc riz et non, puis ouais, blanc de poulet. Poisson.
Voilà. Et le dessert, c'est un riz au lait au smecta. Voilà, comme ça. Tout mélangé, riz, tout mélangé avec... comme ça. Pam, parfait.
Là, t'es tranquille pour 3 semaines.
Ouais, exactement. Juan.
Moi, c'est quoi c'est, tu vois, j'essaye toujours de tenir à ça. Et je me promets 15 jours avant que je vais manger des pâtes à l'huile d'olive avec de la volaille. Et toujours la veille, je finis par me faire une épaule d'agneau avec des grosses aubergines frites. Et des... J'ai toujours, c'est dingue. J'arrive jamais à me tenir.
Bon, après, après, faut se faire plaisir aussi jusqu'au bout. C'est quoi. Tu tiens ta philosophie jusqu'au dernier jour. Mais c'est la question que j'allais te poser. Là, on fait un peu de fiction. Là, j'ai auditeur d'RMC Running. J'ai la chance, je gagne ton bouquin. Donc, Recuerdame. Il y a des recettes colombiennes. Quelle est la recette adaptée à l'entraînement d'un coureur? Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'inspirant pour un coureur? Qu'est-ce qu'on mange? De la banane, de l'avocat? Qu'est-ce qu'on mange exactement?
Et en Colombie, si tu veux. Alors, tu vois, on a des aliments qui sont très, très riches en énergie. Par exemple, la manioc. La manioc, c'est exceptionnel. Et quand la manioc, tu la manges, nous, on la fait cuire souvent vapeur. Elle est assez fondante. On a l'impression de croquer dans un petit coton. Et on a une sauce qu'on appelle suero costeño, qui est comme une petite crème légèrement aigre-douce, un peu comme un leribo. Et ben ça, si la manioc, tu la passes un peu au four, elle est très croustillante dehors, très fondante à l'intérieur, avec cette sauce légèrement... légèrement relevé avec un tout petit peu de piment, c'est exceptionnel. Après, je sais pas si le piment c'est très bon pour.
Moi, je pense pas.
Je suis pas convaincu. Mais après, tu sais, le problème de la Colombie, c'est qu'on reste quand même un pays dans lequel c'est un pays ouvrier. Hein, c'est un pays dans lequel on mange pour se nourrir beaucoup, pour presque pour survivre des fois. On a besoin de beaucoup d'énergie, donc c'est des plats en général qui sont très gras. Très conséquent, beaucoup de fritures, beaucoup de. Donc c'est.
Tout ce qu'on aime.
Je dirais pas. Ouais, c'est tout ce qu'on aime, mais je suis pas sûr que c'est ce que le marathonien puisse avoir besoin, tu vois. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des. C'est pas très adapté. Après, on a un univers de ceviche et de poissons qui est juste exceptionnel, donc ça peut faire l'affaire.
Bon, bah merci pour tous tes conseils, Juan. Vous restez là tous les deux, on passe au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et une fois qu'on a bien mangé, ben on peut être un peu compressé. C'est le principe du bon plan matos. Et voilà, c'est Compressport, la marque qui est mise à l'honneur avec le directeur marketing France qui est avec nous, Guillaume Bottier. Salut Guillaume.
Bonjour à tous. Ouais, vous m'avez mis l'eau à la bouche là.
Ah ouais, là, c'est sûr que c'est dur, évidemment.
Ça fait 10 minutes que je suis en ligne, c'était pas déplaisant.
Et ben voilà, magnifique. Alors, Guillaume, tu es là pour nous présenter une nouvelle paire de chaussettes, la paire de chaussettes Compressport Pro Marathon V2. Alors, beaucoup se disent, c'est souvent d'ailleurs un article négligé dans la tenue du runner. On se dit, bon, bah, je prends la première paire de chaussettes qui vient. Mais vous, elles sont vraiment techniques et elles ont beaucoup de spécificités, hein, ces chaussettes-là, Guillaume. Hein.
Ouais, bah, c'est sûr que chez Compressport, on fait de la chaussette maintenant depuis, alors, on n'est pas si vieux que ça, mais depuis 2011 qu'on a lancé la gamme et je pense qu'on a la même passion pour la chaussette que les grands équipementiers ont pour leurs chaussures. Donc, on y met vraiment beaucoup à la fois de la passion, du test terrain et puis surtout beaucoup de recherche derrière. Et on essaye, j'allais dire, de vraiment répondre aux besoins que peut avoir chaque pratiquant. Et c'est vrai que les gens s'en rendent sans doute pas compte, mais c'est vrai quelqu'un qui va courir un 10 km, un marathon ou faire un Ironman ou courir un UTMB, bah, il aura pas forcément les mêmes besoins. Comme pour une chaussure, bah, pour une chaussette, ça sera des besoins qui seront différents. Et du coup, on s'intéresse à ces sujets-là et on essaie de sortir des produits qui répondent au mieux aux besoins de chaque pratiquant.
Dans un instant, on va parler du produit à proprement parler, donc ces chaussettes-là, mais bah, Compressport, c'est une marque, une gamme de compression, on l'a compris dans le titre en tout cas, c'est bien nommé. Ouais. Donc on parle de tout, là, on parle de manchons, on parle de bas de récupération, c'est vraiment votre spécificité, c'est la technicité au service du coureur, quoi, bien récupéré,
ouais,
bien
ça,
être équipé pour la course. Quoi.
La marque, elle a commencé au tout départ, c'était un produit quand la marque a commencé là, en 2008, c'était un manchon de compression, un manchon de mollet qu'on a vendu au tout début sur les Ironman.
Ouais.
Et en fait, la technologie, elle a vite été adoptée par les trailers. Et surtout, alors ça, là, je parle à l'effort parce qu'on a la récupération. C'est des produits qui sont utilisés depuis toujours par les sportifs de haut niveau, mais vraiment de tous les sports. Pour ceux qui sont fans de foot, si on regarde les yeux dans les bleus en 98, on voit Lilian Thuram avec des chaussettes de récup dans son lit, les jambes en l'air.
Les jambes blanches, les chaussettes blanches, j'ai l'image en tête.
Exactement.
Avec Bernard Diomède en train de chanter. Oui.
Tout à fait. Ben oui, voilà. Enfin voilà, on n'en parle pas trop, mais aujourd'hui, nous, on a encore 8 équipes sur le Pro Tour, sur le Tour de France, qui portent nos produits en récupération, avec des full legs de récupération, des chaussettes pour voyage. Donc la marque, elle a vraiment commencé comme ça, avec la compression à la fois à l'effort, à la récup. Et après, en fait, alors moi, je suis pas là depuis le début, mais quasiment depuis 2011, on était une petite équipe de passionnés, on était 5, et en fait, on faisait du triathlon à l'époque, on s'est mis au trail, et en fait, on voulait pas porter les produits de la concurrence pour aller courir un Ironman ou un UTMB, donc on a commencé à faire des produits textiles pour le triathlon, pour le trail running, mais avec toujours cette même volonté de un produit, un besoin, et on vient y répondre. Donc voilà, on a des produits qui sont alors quelquefois très légers, très respirants, mais vraiment axés pour la performance du sportif, quel que soit son niveau. Donc voilà, et maintenant aujourd'hui Compressport, c'est on équipe les athlètes en route, en trail, en triathlon, de la tête aux pieds. La seule chose qu'on fait pas, ce sont les chaussures. Et puis j'ai envie de dire ce qu'ils appellent les hard boots, les frontales, les bâtons et tout ça. Ouais, on est capable d'équiper
toute une gamme de produits,
la tête aux pieds, y compris le sac. Ouais,
En fonction de la discipline pratiquée. Johan, tu es un fan des chaussettes de compression notamment. Est-ce que tu portes ça à l'entraînement pour la récup? Est-ce que tu les portes chez toi? C'est des produits que tu utilises?
Ouais, plus en récupération, pas à l'effort, parce que j'en éprouve pas le besoin et j'ai jamais eu c'est des problèmes de périostite ou de mollet, de contracture au mollet pour un peu décharger tout ça. Je fais pas suffisamment de long, je pense. Mmh. Mais par contre, en récupération, ouais, bien évidemment, surtout en période de voyage, quand je voyage beaucoup, effectivement, je mets les manchons de compression pour faciliter le retour veineux et faire en sorte de pas avoir des espèces de gros poteaux à la fin de mon voyage. Quand tu prends l'avion, que tu restes assis pendant 5-6 heures ou le train, avant une compétition, c'est des très bons produits, et même en récupération après la compétition, pour justement c'est ça, faciliter le retour veineux et éliminer un peu tous les déchets ou les toxines qu'on a accumulés dans le bas des jambes.
Ouais. C'est vrai que tu le dis tout le temps, il faut le porter quand on voyage, notamment la veille ou l'avant-veille d'une compétition. Juan, t'en utilises, toi, des bas de compression ou ce genre de choses, ou non?
J'ai utilisé, alors j'ai couru pour le marathon de New York pour la première fois.
Ouais.
J'ai pris des compresses pour le mollet parce que je sais pas, je voulais tester et je me suis souvent je me mets des petits trucs que j'ai jamais testé comme ça.
T'as raison, c'est bien.
Tout le temps, ouais. C'est le truc que je fais. Je fais souvent.
Pour tester le jour J, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Voilà,
moi, je fais tout le temps les choses comme il faut, quoi. Tu sais, t'as compris quel type de runner je suis. Mais j'étais agréablement surpris finalement. Au début, j'avais une sensation un peu bizarre, mais tu sais, au bout du 15e kilomètre, tu sens plus rien. Donc, en vrai, soit tu sens tout, mais c'est pas les chaussettes, soit tu sens plus rien.
Exactement.
Donc voilà, non, en vrai, ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Et finalement, tu vois, j'avais pas les douleurs après. La récupération a été assez rapide.
Et ben, ça a
donc j'étais assez content de l'utilisation. Ouais.
Magnifique. Alors, l'enjeu de ces chaussettes, donc Compressport Pro Marathon V2, Guillaume, évidemment, c'est diminuer le risque d'ampoule. Ça, c'est la terreur de tous les coureurs, hein, quand on part notamment sur une sortie longue ou sur un marathon ou un semi-marathon. Mais il y a d'autres spécificités à ce produit. C'est-à-dire que ça réduit les frictions, les frottements, ça évite aussi la surchauffe. Et il y a tout un aspect lié à la fibre antibactérien. Donc, c'est un produit, j'imagine, qui a une durée de vie qui est augmentée, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, en gros, on travaille, pour essayer de simplifier un peu la chose, sur trois axes pour une chaussette qui sont... la protection, le support et la respirabilité. Comme tu l'as dit, le problème numéro un d'un coureur, ça va être d'avoir des ampoules. Et qu'est-ce qui va créer les ampoules? En fait, pour créer la première génération de cette chaussette, là donc c'est la deuxième qui vient de sortir.
Ouais.
C'est on a fait une étude qui était vraiment une étude statistique au départ sur des centaines de coureurs et on leur a demandé déjà combien de personnes avaient des ampoules sur un marathon. Et surtout, quelles étaient les zones sur lesquelles ils avaient des ampoules et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ressentaient? Donc en fait, on voulait vraiment identifier les zones du pied où le coureur pouvait avoir ses ampoules et pourquoi. Donc on a défini ces zones et le pourquoi, souvent, c'est soit des zones de friction, donc où la chaussette vient bouger un peu et donc crée une zone où ça vient frotter et au bout de 42 bornes, ça se transforme en ampoule. Ou des zones de surchauffe où le pied vient chauffer. Et c'est marrant parce que sur une étude statistique, on retrouve vraiment des zones clés. Et après, on a travaillé au labo sur comment on pouvait venir soit protéger les zones qui avaient besoin d'être protégées, qui avaient besoin plus de protection, les zones qui en ont pas, où là, on va vraiment aller chercher la respirabilité. Donc, on a des chaussettes qui sont hyper fines, mais c'est hyper important parce que il faut qu'une chaussette elle puisse évacuer l'eau hyper rapidement, que ça soit la transpiration, que ça soit parce que on va marcher dans une flaque, il faut que ça sèche rapidement. Donc voilà. Et après sur les zones de surchauffe, c'est là où on travaille sur ce modèle-là en particulier avec une fibre qui est du PTFE, en fait qui est une fibre rafraîchissante et donc qui va venir prévenir la surchauffe à certaines zones. Alors vous allez me dire pourquoi on n'en met pas partout. En fait, c'est une fibre qui coûte une fortune. Ah. Et du coup, on aimerait bien, mais on sortirait une chaussette qui sortirait à une centaine d'euros si on en mettait sur tout le pied. Ouais. Sur tout le pied. Donc voilà, il y a un moment. Alors c'est une chose qu'on a fait pour certains athlètes. On a des athlètes qu'on a envoyés au Marathon des Sables.
Okay.
Et on leur a fait des produits spécifiques où on leur a fait la chaussette et la manchette pour les bras, tout dans cette fibre-là pour qu'eux, ils aient vraiment un effet rafraîchissant. Okay. Voilà. Mais là, du coup, sur cette chaussette-là, on l'a au niveau des orteils, et d'autres zones sur le pied pour vraiment rafraîchir.
Guillaume, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser le numéro de Juan, parce que si jamais il veut refaire le half marathon des Sables, tu pourras l'équiper, comme ça.
Voilà. Voilà, très chaud. Pas hésiter, ça fait un plaisir, si on peut faire des échanges de bons procédés. Hein,
c'est ça.
Voilà. J'ai encore les recettes en tête depuis tout à l'heure.
C'est ça, j'imagine. Voilà,
avec plaisir.
Bon, donc, magnifique produit. On le retrouve où? Est-ce que ça s'achète, Guillaume?
Écoute, ça s'achète chez la plupart des spécialistes running en France, donc boutiques spécialisées, pareil, chez les revendeurs en ligne sur le site Compressport. Donc voilà, mais si vous avez un revendeur près de chez vous, normalement la chaussette y sera.
Et le prix, je rappelle, 25 euros la paire, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ok,
c'est ça.
Magnifique. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci également.
Merci de m'avoir eu.
D'en faire gagner une paire à la communauté RMC Running. D'ailleurs, on a deux cadeaux du coup cette semaine. On a le livre de Juan Arbelaez, Recuerdame, et donc la paire de chaussettes. Vous allez participer à ces deux tirages au sort avec un test d'écoute. Ah. Et oui, il faut répondre donc sur notre compte Instagram et sur le club RMC Running sur Strava. Le test d'écoute, c'est très simple. Quel est le nom du personnage pour lequel Juan Arbelaez a prêté sa voix française dans Encanto, Madrigal? On l'a dit au tout début. Replongez-vous au début de l'épisode et puis les aficionados auront déjà la réponse. Donc voilà, ça va être un bon test d'écoute. N'hésitez pas et indiquez-nous si vous jouez pour les chaussettes, pour le livre ou pour les deux.
Ah ouais, il y aura des escrocs.
Comme ça, on va savoir, exactement. Juan, merci d'avoir été là. C'était un super moment à partager avec toi.
Merci à vous.
On va suivre tes exploits, notamment au Marathon pour tous. Hein, on y sera, donc on va observer ta préparation avec beaucoup d'attention.
Trop cool.
Côte d'Agneau vendredi soir.
Voilà, exactement, Côte d'Agneau. Nouvelle chaussure, nouvelle chaussette le jour de la course. Très bien, quoi. Parfait, tout ce qu'il faut. Et puis pour terminer, on a une tradition. On t'a demandé la musique que tu écoutes quand tu cours. Tu as choisi The Animals. House of the Rising Sun, classique,
ouais.
Magnifique. Pas très colombien, c'est vrai, mais
non, mais
ça fait le taf.
Tu sais, quand t'es en train de courir, t'entends ça et t'as l'impression.
Soleil levant là.
Ouais, là tu peux courir 120 km sans problème.
Tu seras bien au marathon pour tous, coucher de soleil en pleine côte comme ça à Versailles, magnifique.
Magnifique.
Merci Juan d'avoir été là. Merci à toi, Maître Yodu.
Merci à vous.
À tous.
Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.